Bonjour à tous. L'émission d'aujourd'hui a été préparée par Marguerite Caton, Paloma Soria Brown, Aliette Ovin et Elliot Baucher. À la réalisation, Anne de Pelchin. À la technique, Adèle Caglar.
Entendez-vous l'écho ? Tiphaine de Rocchini.
C'est le dernier épisode de notre série consacrée à l'économie allemande à l'heure des doutes. Une série intitulée « Allemagne, la fin d'un cycle ». Cette semaine, nous avons examiné les menaces qui pèsent sur le modèle de croissance allemand et interrogé le tabou d'une éventuelle relance budgétaire. Après avoir arpenté hier les Länder d'Est en Ouest, c'est le grand défi de la transition écologique qui nous attend aujourd'hui. L'Allemagne a choisi très tôt de se tourner vers les énergies renouvelables et de sortir du nucléaire d'abord et du charbon ensuite. Mais malgré des investissements considérables, la filière éolienne patine et le charbon, fort émetteur de CO2, continue de fournir près de 40% de l'électricité allemande. L'Allemagne est-elle en train de rater sa transition énergétique ? Nous allons en parler en compagnie de Mireille Chirolleux-Assouline, économiste, professeure à l'université Paris 1 Panthéon-Sorbonne et auteure d'une économie de l'environnement, publiée il y a quelques années chez Bréal. Avec nous également en duplex de Nancy, Michel Dehay, géographe, professeur à l'université de Lorraine et auteur d'un atlas de l'Allemagne dont la nouvelle édition est parue cette année chez Autrement. À 14h50, on saura tout de l'actualité économique grâce au journal de l'écho de Xavier Martinet.
Wir alle wissen und diskutieren ja in diesen Tagen.
Nous discutons tous beaucoup ces derniers jours des conséquences du changement climatique et de la façon dont nous devons les limiter. Dans ce contexte, notre système énergétique doit totalement changer. Nous avions beaucoup de mal à atteindre nos objectifs très ambitieux en termes de climat. C'est pourquoi le gouvernement fédéral a décidé de se pencher sérieusement sur les objectifs de réduction de 55% du CO2 entre 1990 et 2030, et de les appliquer véritablement à tous les domaines. Nous avons ensuite décidé de réduire de 20% supplémentaires la production de CO2 entre 2010 et 2020, et nous nous sommes trouvés dans une situation où il nous est apparu très dur d'atteindre ce but en 2020, car il était également extrêmement ambitieux.
En 2007, la presse allemande avait attribué le titre de chancelière du climat à Angela Merkel, que l'on vient d'entendre. Mais l'Allemagne a aujourd'hui du mal à atteindre ses objectifs en termes de réduction des gaz à effet de serre. Les critiques qui sont adressées à la politique climatique de la chancelière sont à la hauteur des espoirs qu'elle avait suscités, Mireille Chirolleux-Assouline.
Oui, mais il ne faut pas oublier que la stratégie de transition énergétique de l'Allemagne a changé de priorité. Depuis cette période que vous citez, c'est-à-dire que initialement la priorité était de réduire les émissions de gaz à effet de serre, et à partir de 2011 la priorité est devenue de sortir du nucléaire. Et donc d'une certaine façon, Angela Merkel et l'ensemble de l'Allemagne se sont fixés des objectifs qui sont forcément très difficiles à atteindre simultanément.
Ce qui est très critiqué, Michel Dehay, c'est le fait que cette sortie du nucléaire, le nucléaire étant une énergie décarbonée, a entraîné un ralentissement de la baisse de la production de charbon dans le pays.
C'est-à-dire que il y a eu une baisse assez forte de la production, alors en fait de charbon et surtout de lignite. Parce que pour les auditeurs, il faut expliquer que sous le charbon, on regroupe plusieurs catégories de matières. Donc l'Allemagne produit encore de très grandes quantités de lignite, qui est un charbon, disons, de mauvaise qualité, à faible pouvoir calorifique, et qui est produit dans des mines à ciel ouvert gigantesques, qu'on voit dans la région de Cologne, par exemple, mais aussi en Allemagne de l'Est.
Et qui représente 24% de la production électrique aujourd'hui en Allemagne.
Voilà, à peu près. Et en fait, ça sert à c'est brûlé dans des très grosses centrales thermique, et ça sert à alimenter la base, en fait, du système de production d'électricité. Et donc il y a eu une très forte diminution de cette production de lignite dans les années 90, mais c'était celle de l'Est de l'Allemagne, qui est passée de 300 millions de tonnes à aujourd'hui 70 à peine. Mais la production de lignite de l'Ouest de l'Allemagne, elle a été maintenue. Et ces centrales à lignite, eh bien, grosso modo, quand on regarde l'évolution depuis le début des années 2000, elles produisent pratiquement toujours autant de courant, puisqu'elles servent vraiment, en fait, de socle à la production d'électricité en Allemagne. Donc ce qui a diminué, c'est la production de charbon, puisqu'ils ont même fermé leur dernière mine de charbon très récemment. Et mais par contre, ils importent du charbon encore pour faire fonctionner des centrales qui servent plutôt lorsqu'il y a des, disons, des pointes de consommation. Et la question donc qui a été discutée effectivement récemment à travers notamment une commission, quand on a appelé la commission du charbon, hein, qui a rendu un rapport au début de l'année 2019, c'était effectivement l'avenir de ces centrales, donc avec des préconisations qui recommandaient notamment de les fermer au plus tard en 2038.
Alors on va voir effectivement les difficultés de l'Allemagne à sortir du charbon, mais d'abord un mot, Mireille Chirolle-Assouline, sur cette décision prise par Angela Merkel en 2011, d'accélérer la sortie du nucléaire. Dès les années 2000, il y avait une première décision de sortir du nucléaire d'ici à 2022 en Allemagne. Comment expliquer cette décision prise par Angela Merkel? C'est notamment en lien à ce moment-là avec la catastrophe de Fukushima.
Oui, c'est une annonce qui a eu lieu immédiatement après la catastrophe de Fukushima. Les Allemands sont caractérisés par le fait qu'ils ont une très forte sensibilité à l'environnement, ou en tout cas à certains aspects de l'environnement, et qu'il y avait une assez forte opposition au nucléaire, ce qui fait que lorsqu'elle a fait cette annonce en 2011, elle a été immédiatement suivie par la quasi-majorité de la population allemande. Il y avait un taux d'approbation de ce tournant dans la transition énergétique qui était d'environ 90%.
Et alors justement, comment expliquer cet anti-nucléarisme en Allemagne? Écoutons les explications de Dimitri Pescia, il est membre du think tank Agora Energiewende 2 qui travaille justement avec le gouvernement allemand.
Je pense que la volonté de développer les renouvelables en Allemagne, elle est mûrie, elle est née d'un antinucléarisme fort qui trouve ses racines historiques, je ne sais pas, dans les années 60, qui peut être expliqué par des facteurs géopolitiques beaucoup plus généraux, et l'occupation de l'Allemagne de l'Ouest par les États-Unis, le positionnement d'ogives nucléaires sur le territoire allemand, la naissance d'un mouvement donc d'indépendance lié aussi à la volonté de sortir les armes nucléaires du territoire. Et alors après, il y a eu un développement d'un programme nucléaire en Allemagne, certes, mais il n'a jamais vraiment été facile à mettre en place. Il a été confronté très très vite à une opposition politique et populaire. Et enfin, après Tchernobyl, je veux dire, c'était le premier arrêt du nucléaire allemand. Il n'y a eu plus aucun réacteur qui a été mis sur le réseau après Tchernobyl.
Le choix d'investir dans les énergies renouvelables en Allemagne, Michel Dehaye, c'est d'abord lié à cette volonté de sortir du nucléaire?
On trouve notamment l'expression « transition énergétique » dès le début des années 80 dans des ouvrages et qui essaye de montrer effectivement que on peut par les énergies renouvelables se passer du nucléaire, hein, éviter disons de rester dans cette filière. Et c'est, tu as tout à fait d'accord avec la collègue, hein, c'est que pour le sens de transition énergétique en Allemagne, hein, on dit d'ailleurs Energiewende, c'est-à-dire c'est plutôt le tournant énergétique si vous voulez, et c'est vraiment d'abord sortir du nucléaire finalement. Et l'aspect, réduire les émissions de dioxyde de carbone, c'est apparu comme une priorité, mais plus tard finalement, alors que l'idée de sortir du nucléaire était déjà bien engagée en définitive.
Et c'est pour cela que la loi sur les énergies renouvelables intervient en 2000, Mireille Chirolle-Assouline, après justement que le nucléaire ait été largement favorisé dans les années 90, mais à partir des années 2000, à nouveau, il y a cette volonté de prendre cette distance avec le nucléaire et donc véritablement d'investir dans les énergies renouvelables, à commencer par l'éolien.
Oui, à ce moment-là, la volonté, c'était de sortir des énergies fossiles tout en n'augmentant pas la part du nucléaire. Et c'est en ça que la priorité a changé, puisqu'en 2011, il s'est agi de sortir du nucléaire, ce qui n'avait pas été aussi nettement anticipé. Et à ce moment-là, les investissements dans les énergies renouvelables sont passés par des investissements dans l'énergie éolienne et l'énergie photovoltaïque, avec des problèmes assez différents pour les uns et pour les autres. En tout cas, l'éolien a décollé très très fort, le photovoltaïque beaucoup moins.
Alors, on va parler des difficultés, mais avant, il faut quand même dire que la part des renouvelables dans le mix électrique allemand a à peu près doublé depuis les années 2010. On peut dire que c'est quand même assez impressionnant, 40% aujourd'hui en Allemagne contre 26% environ en France.
C'est ça. C'est effectivement impressionnant. C'est-à-dire que quand on lit souvent que la transition énergétique en Allemagne serait un échec, je crois qu'il faut vraiment relativiser. C'est-à-dire que selon certains critères, les objectifs ne sont pas atteints, mais il y en a d'autres qui sont très largement remplis.
Michel Dehel, l'Allemagne a du mal à sortir du charbon, mais sur les énergies renouvelables, les progrès ont été fulgurants ces dernières années.
Oui, bien sûr, il y a eu des progrès extraordinaires qui se sont accélérés depuis effectivement 2011, en particulier pour l'éolien, plus que finalement le photovoltaïque. Après, il faut aussi relativiser, et ça c'est le sens un peu des critiques qui peuvent être portées, c'est que on parle toujours que de l'électricité en définitive. Donc c'est effectivement presque 40% de la production d'électricité, en sachant qu'il partait effectivement de très bas. Après, quand on regarde la part des renouvelables dans ce qu'on appelle la consommation d'énergie primaire, on arrive à quelque chose comme 15%.
Alors, il faut que vous nous expliquiez la différence, Michel Dehaer, entre la consommation d'énergie primaire et la consommation électrique.
La consommation d'énergie primaire, c'est toute l'énergie que vous allez consommer dans un pays, à commencer par exemple par le pétrole pour les déplacements, donc qui pèse toujours le même poids finalement que dans les années 90. C'est à peu près, en 2018, 34%. C'était 35% en 1990. C'est le gaz, par exemple, alors pour le chauffage, qui sert aussi pour la production d'électricité. Mais donc il y a aussi, effectivement, quand on parle de transition énergétique, souvent, alors on a fait d'énormes progrès, d'ailleurs dans les pays européens, c'est dans la production d'électricité, ça incontestablement. Après, tout le reste, c'est-à-dire quand même l'essentiel de la consommation d'énergie, finalement, il y a eu assez peu de développement à part les biocarburants. On sait les problèmes que ça pose, d'ailleurs.
Ce qui explique la difficulté aujourd'hui de l'Allemagne à répondre à ses objectifs en termes de réduction de gaz à effet de serre, effectivement. Alors, on va en reparler. Mais d'abord, il faut dire aussi, Mireille Chirolet souligne, que cette filière éolienne, qui est donc l'un des piliers de la transition énergétique en Allemagne, est actuellement en crise. La construction d'éoliennes terrestres ces derniers mois en particulier a complètement chuté.
Oui, l'essentiel de l'augmentation du parc a eu lieu il y a déjà quelques années. Et maintenant, les éoliennes sont beaucoup moins implantées pour différentes raisons. Alors, il y a une raison de changement de politique en ce qui concerne les aides aux énergies renouvelables.
Il y a une date clé, c'est en 2016 que effectivement un certain nombre de subventions sont supprimées.
C'est ça. Jusqu'alors, la politique était extrêmement coûteuse. Elle était extrêmement favorable. C'était une politique qui consistait à racheter l'électricité produite à tous les producteurs éventuels et à la réinjecter sur le réseau à un tarif garanti. Et ce tarif garanti était extrêmement élevé, ce qui fait qu'il favorisait l'utilisation de technologies éventuellement coûteuses, plus coûteuses qu'efficaces. Et c'est un défaut qui s'est retrouvé aussi d'ailleurs pour les installations de capacités photovoltaïques. Mais du coup, pour l'Allemagne s'est retrouvée à dépenser beaucoup d'argent pour finalement des capacités installées assez importante, mais assez sous-utilisée, ce qui, d'un point de vue de l'efficacité économique, est vraiment un gros problème. Donc, en 2016, il a été décidé de revenir là-dessus, de réduire les aides afin de favoriser, au contraire, les investissements dans des équipements et des technologies les plus efficaces possibles.
Et c'était une bonne idée d'arrêter les subventions ? Parce qu'en l'occurrence, ça a eu un impact catastrophique sur un certain nombre d'entreprises. Il y a eu 26 000 emplois dans l'éolien qui ont été supprimés.
Ça n'est jamais une bonne idée de revenir en arrière aussi subitement. En revanche, que les subventions existantes jusqu'alors aient été un peu surévaluées et eu des effets pervers, ça c'est indéniable. Et il fallait peut-être revenir en arrière d'une façon un peu plus progressive. Quand vous dites que des milliers d'emplois ont été perdus, c'est quand même relativement à des dizaines de milliers d'emplois qui avaient été créés. Donc sur le long terme, les choses sont un peu plus lisses.
Michel Dehaer, sur l'impact de cette crise de l'éolien, effectivement on retrouve un peu le même schéma dans la filière allemande du photovoltaïque.
Dans la filière du photovoltaïque, ça s'est produit plutôt parce que ce qu'il faut expliquer, c'est qu'effectivement les tarifs d'achat très avantageux qui ont été décidés dans la loi sur les énergies renouvelables, Alors, ils étaient utiles au départ, effectivement, pour lancer ces filières. Et puis après, à un moment, on a eu l'impression qu'on perdait un petit peu le contrôle, en quelque sorte, du développement. Donc, dans le photovoltaïque, en Allemagne, d'ailleurs comme en France aussi, dans tous les pays qui avaient mis des tarifs d'achat très attractifs au départ, on a constaté un boom d'investissement. Par exemple, pour le photovoltaïque, c'était dans les années plutôt 2009-2012, hein, pour vous donner une idée. Entre 2009 et 2012, en Allemagne, on était passé de 10 gigawatts installés à 34, hein, en quelques années, donc avec une vitesse de progression extraordinaire. Donc là, on a modifié la loi sur les énergies renouvelables, à plusieurs reprises d'ailleurs, pour réduire en fait les tarifs et essayer de reprendre la maîtrise de ce développement. Donc là, ça a été à peu près fait pour le photovoltaïque où, dans les dernières années, on marchait, si je puis dire, à une progression à peu près de 2 gigawatts par an. Donc, ce qui fait que, contrairement à l'éolien, finalement, où jusqu'en, par exemple, entre 2013 et 2017, il y a eu une progression très, très rapide, hein, de l'ordre de 4 à 5 gigawatts par an. Et ce qu'on peut regretter, moi je trouve, c'est vrai d'ailleurs pour l'Allemagne, mais aussi pour la France et j'allais dire pour les pays qui développent ces énergies renouvelables, c'est qu'on a quand même l'impression que c'est pas planifié du tout, que les tarifs d'achat donc qui sont utiles à un moment, finalement ça finit par susciter en quelque sorte un surinvestissement et effectivement comme la disait la collègue, pas forcément toujours très pertinent en termes d'efficacité. Et puis on se retrouve dans une situation, alors dans le cas de l'Allemagne, là, qui est effectivement très brutale, où grosso modo, effectivement, depuis le début de l'année, moi j'ai regardé les statistiques, on a dû installer 380 mégawatts depuis le début de l'année 2019, hein, alors que on marchait jusqu'en 2017 à 4 ou 5 gigawatts par an. Alors, je parle de l'éolien terrestre, hein, d'ailleurs.
Hein, l'éolien terrestre qui souffre beaucoup plus que l'éolien offshore, en l'occurrence.
C'est pas le même système.
Il faut y voir, effectivement, une politique de subvention, de soutien aux énergies renouvelables qui a été mal pensée en Allemagne. Mireille Chirolla-Souline.
Oui, sans doute. Mais comme ça a été dit juste maintenant, ça a été la même chose en France. Hein, c'est-à-dire que la production par des producteurs décentralisés a été favorisé de cette façon. Mais par exemple, sans que le secteur industriel qui pouvait fabriquer les équipements nécessaires ne soit stimulé exactement de la même façon. Et vous parliez on peut parler de concurrence chinoise. C'est là qu'on voit très nettement que la politique n'a pas été suffisamment planifiée de façon cohérente.
On entend parfois dire que la concurrence chinoise aurait tué effectivement la filière photovoltaïque et éventuellement éolienne en Allemagne, Mireille Charolier-Lessine.
Elle l'a tué en Allemagne, elle l'a tué en France, hein, et c'était naturel et on pouvait s'y attendre.
Mais cette forte hausse de la part des renouvelables dont on a parlé a tout de même eu un effet, c'est-à-dire qu'il y a eu un recul de la production nucléaire en Allemagne qui a été assez importante, Michel Dehaye.
Oui, mais alors là, je crois qu'il faut rappeler très clairement hein, la problématique fondamentale là, pour la production d'électricité. C'est que vous avez en fait donc des centrales comme les centrales nucléaires, les centrales à charbon ou à lignite ou à gaz d'ailleurs, qui peuvent fonctionner en quelque sorte tout le temps, hein, de façon en tout cas, comme on dit, pilotable en quelque sorte, suivant la demande d'électricité. Et la caractéristique des très grosses capacités d'énergie renouvelable qui ont été installées, donc je parle de l'éolien et du photovoltaïque en particulier, ce sont des sources intermittentes qui fonctionnent. Alors par exemple pour l'éolien, grosso modo, c'est à peu près 20% du temps. Alors attendez, à pleine charge, hein, elle fonctionne plus souvent que ça, mais grosso modo, la production, c'est plutôt 20% à pleine charge. Et le photovoltaïque, c'est même beaucoup moins que cela. Et le grand problème, c'est que parfois vous avez beaucoup d'éoliens qui fonctionnent quand vous avez du vent. Alors aujourd'hui, hein, les conditions atmosphériques, il y a pas mal de vent, je crois que c'est aussi le cas sur l'Allemagne. Vous avez beaucoup de soleil, donc quand vous voyez les capacités à la fois éoliennes et photovoltaïques qui existent en Allemagne, qui sont aujourd'hui de plus de 100 gigawatts, c'est-à-dire 100 gigawatts, c'est autant que toute la capacité de toutes les centrales en fait thermiques et nucléaires d'Allemagne. Donc à ce moment-là, à certains moments, ces capacités-là peuvent ravitailler le pays. Mmh. Voire même, il y a presque trop de courant, en quelque sorte, qu'il faut exporter vers les pays voisins. Mais ça, ça dure un certain temps, jusqu'à ce que la nuit tombe, le photovoltaïque, évidemment, là, ne marche plus. Et puis si le vent tombe, c'est la même chose pour l'éolien. Et à ce moment-là, on a de nouveaux besoins, évidemment, de toutes les capacités des centrales thermiques, voire nucléaires, effectivement. Et c'est ça la problématique. C'est-à-dire que les Allemands ont créé, en fait, en quelque sorte, deux systèmes de production d'électricité qui sont aujourd'hui de capacité équivalente. Hein. Ils avaient donc leur centrale thermique et nucléaire. Donc, en baissant le nucléaire, ils ont été obligés quand même de développer, par exemple, des centrales à gaz, hein, notamment, où ils ont augmenté parfois la production des centrales à charbon. Et ils ont un autre système, en fait, qui est le système des énergies renouvelables intermittentes.
Mais voilà, aujourd'hui, c'est crédible pour vous, Mireille Chirolleux-Assouline, cette possibilité d'une sortie du nucléaire en 2022 pour l'Allemagne?
Je pense que tout est planifié et c'est en effet crédible. Les difficultés auxquelles l'Allemagne va devoir s'affronter dans l'avenir proche, ce sont des difficultés liées à l'opérabilité de l'ensemble du réseau. L'une des difficultés liées aux énergies renouvelables éoliennes et photovoltaïques, c'est que en ce qui concerne surtout d'ailleurs l'éolien, la capacité de production est surtout au nord du pays, en plaine. Alors que les besoins sont dans le sud du pays, dans les Länder du sud. Ce qui fait qu'il y a un véritable besoin, et il y a eu un plan d'ailleurs qui a été mis en œuvre de construction de lignes à haute tension. Il faudrait plus de 7000 km de nouvelles lignes à haute tension pour relier l'ensemble de ces points. Et qu'actuellement, bien plus que des problèmes d'installation limitée de capacité, actuellement, ce sont plutôt ces constructions de lignes qui ne se font pas du tout au rythme qui devrait être observé.
Et puis il y a aussi un enjeu de stockage de ces énergies renouvelables. Michel Dehay, il y a des avancées scientifiques sur ce point, mais c'est encore assez balbutiant.
Il y a beaucoup de, on peut pas énumérer ici toutes les les projets qui existent, mais le problème c'est qu'on est dans des besoins finalement immédiats, enfin assez rapides, pour du stockage de très grosses capacités. Et ce qui fonctionne à grande échelle aujourd'hui, ça c'est quelque chose qui est, qui fonctionne depuis très longtemps. C'est les centrales hydrauliques de turbinage et pompage, donc les réservoirs hydrauliques qu'on peut trouver dans des montagnes, notamment. Donc l'Allemagne a peu de montagnes, donc a très peu de ce type de stations.
Contrairement à la France qui a une hydroélectricité plutôt développée.
La France en a beaucoup plus, mais pas tant que ça non plus.
C'est le double en France, 6% de l'électricité contre 3% en Allemagne.
Mais pour les centrales où on peut stocker de l'eau en quelque sorte, non pas du courant pour l'utiliser lorsqu'on en a besoin, c'est pas des très grosses capacités, notamment quand on commence à avoir des capacités éoliennes ou photovoltaïques tout à fait considérables.
Et on va voir. C'est ça le problème. On va voir que cette question de la sortie du charbon aussi un certain nombre de conséquences sociales et sur les territoires. On en parle dans un instant.
France Culture. Entendez-vous l'écho? Tiffaine de Roquigny.
Manchmal fühle ich mich hier falsch wie ein Segelschiff im All. Aber bist du mit mir an Bord, bin ich gerne durchgeknallt. Selbst der Stau auf der A2 ist mit dir blitzschnell vorbei. Und die Plörre von der Tanke schmeckt wie Kaffee auf Hawaii. Yeah. Auch wenn ich schweig, du weißt Bescheid. Ich brauch gar nichts sagen, ein Blick reicht. Und wird uns der Alltag hier zu grau? Pack ich dich ein, wir sind dann mal raus. Hallo Lieblingsmensch, ein Riesenkompliment dafür, dass du mich so gut kennst. Bei dir kann ich sein, verträumt und verrückt.
erfahren, aber dir vertraue ich's an, weil du sicher aufbewahrst. Meine Area 51, und manchmal drehen wir uns im Kreis. Aus einer Kleinigkeit wird Streit, aber mehr als 5 Minuten kann ich dir nicht böse sein. Yeah. Mach ich dir was vor, fällst dir sofort auf. Lass ich mich hängen, dann baust du mich auf. Manchmal wiegt der Alltag schwer wie Blei. Doch sind wir zu zweit, scheint alles so leicht. Hallo Lieblingsmensch, ein Riesenkompliment dafür, dass du mich so gut kennst. Bei dir kann ich ich sein, verträumt und verrückt sein. Na, 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 na. Danke Lieblingsmensch, schön, dass wir uns kennen. Zeiten ändern sich und wir uns gleich mit. Du und ich, so jung auf diesem alten Polaroid-Bild. Das letzte Mal, als wir uns sahen, ist viel zu lang her. Doch jetzt lachen wir, als wenn du nie weg gewesen wärst. Hallo Lieblingsmensch, ein Riesenkompliment dafür, dass du mich so gut kennst. Bei dir kann ich ich sein, verträumt und verrückt sein. Na, 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 na. Danke Lieblingsmensch, schön, dass wir uns kennen. Hallo Lieblingsmensch, ein Riesenkompliment dafür, dass du mich so gut kennst. Bei dir kann ich ich sein, verträumt und verrückt.
Lieblingsmensch de Namika sur France Culture, dans Entendez-vous l'écho. L'économiste Mireille Chirleau-Assouline et le géographe Michel Dehaye sont toujours avec nous pour parler des défis de la transition énergétique en Allemagne.
Le gouvernement semble sérieux au sujet de l'abandon du charbon, parce qu'il veut atteindre ses objectifs climatiques pour 2020 et 2030. Mais il fait face à de fortes contraintes. Et évidemment, le lobby du charbon en Allemagne est très puissant, dans le sens où il influence les responsables politiques depuis de nombreuses décennies en Allemagne, et en particulier dans l'ouest du pays. Il a tissé un lien fort avec un parti, les sociaux-démocrates, et il est aussi en lien étroit avec les syndicats qui se battent pour sauvegarder chacun des emplois en Allemagne. Nos autorités ont trop tardé à se doter d'un calendrier précis pour la sortie du charbon. Et le résultat, c'est qu'aujourd'hui, il y a d'intenses débats pour savoir quand et comment les centrales à charbon doivent cesser leur activité.
Claudia Kempfer, spécialiste des questions d'énergie à l'Institut allemand pour la recherche économique. L'influence du lobby du charbon, Michel Dehaye, explique aussi cette difficulté à sortir du charbon en Allemagne.
Oui, il y a effectivement, ça c'est bien connu, hein, le lobby, comme on dit, du charbon à la fois politique, hein, notamment on pense au lien qu'il y a dans l'état de Rhénanie du Nord-Westphalie, qui est le land historique du charbon, où il y a la Ruhr, et aussi d'ailleurs le bassin de lignite de Cologne, hein, donc qui est le plus gros producteur, évidemment, finalement d'électricité en Allemagne. Donc c'est un land effectivement qui est un peu un bastion historique du parti social-démocrate, et ils tiennent à évidemment à conserver les emplois dans les centrales et l'extraction du lignite, mais aussi, alors même si on n'extrait plus de charbon, hein, il y a également quand même beaucoup encore de centrales à charbon qui fonctionne. Donc ça, c'est incontestable. Après, pour critiquer un peu ce que je viens d'entendre, alors c'est un peu facile de dire c'est le lobby du charbon quand même qui empêche de la fermeture des centrales, parce que en réalité, comme je l'expliquais tout à l'heure, dans le système de production d'électricité tel qu'il fonctionne aujourd'hui, vous avez les centrales à lignite et les centrales nucléaires encore, hein, il y en a finalement encore 7 réacteurs qui fonctionnent toute l'année, tous les jours, 24 heures sur 24, donc sauf entretien, et qui fournissent le courant de charge de base. Et donc ces centrales-là, qui sont des grosses centrales, ne sont pas non plus faciles c'est-à-dire qu'elles peuvent pas être remplacées par des énergies renouvelables.
Il y a réel besoin. Alors Mireille Chirleau-Assouline n'a pas l'air d'accord.
C'est-à-dire que il n'est pas faux qu'il y ait des centrales qui fournissent le courant de base. pour suppléer les manques des énergies renouvelables, mais ça pourrait tout à fait être des centrales à gaz naturel. Et le gaz naturel a un pouvoir calorifique tel et un contenu en carbone tel que ce serait beaucoup moins émetteur de gaz à effet de serre. Et donc, ce serait tout à fait possible de sortir du charbon en passant au gaz naturel. Oh. Ce qui pose d'autres problèmes de dépendance énergétique.
On va donner un chiffre pour bien comprendre. C'est 1175 grammes de CO2 par kilowattheure pour ce qui est du lignite contre 518 pour le gaz naturel, Michel Déhel. Donc le lignite est quand même particulièrement polluant, l'une des énergies fossiles les plus polluantes au monde.
Absolument.
Tout à fait. Attention, je ne fais pas partie du lobby du charbon. Ne défends pas le lignite. Et la collègue a ouvert en fait un autre débat. C'est celle, effectivement, de remplacer les centrales à charbon, même à lignite, par des centrales à gaz. Hein. C'est un peu ce qui se fait d'ailleurs aux États-Unis depuis les années 2005-2006, où les centrales à charbon, elles sont progressivement fermées, remplacées par des centrales à gaz. Ce qui a permis d'ailleurs aux États-Unis de baisser leurs émissions de dioxyde de carbone, par exemple, entre 2005 et 2017, de pratiquement 13%. Et alors, évidemment, le gaz, d'où peut-il venir ? Il vient de Russie.
Le gaz, il faut l'importer.
Dire qu'on va fermer les centrales à charbon, ça veut dire qu'il va falloir importer beaucoup plus de gaz, notamment de Russie, ce qui tomberait assez bien, puisqu'il y a le deuxième gazoduc de la Baltique, la Nord Stream, qui est en construction, en voie d'achèvement cette année, et dont la mise en service, je crois, est plus ou moins prévue en 2020, si tout va bien.
Et alors, avec la sortie du charbon prévue en 2038, ce sont aussi des milliers d'emplois qui sont menacés en Allemagne.
La transition énergétique et les énergies renouvelables surtout ont, pour le moment, créé en Allemagne 380 000 emplois, mais pas nécessairement à l'endroit où on détruit des capacités de génération thermique. Par exemple, la Lausitz, c'est un bon exemple. C'est une région où, après la réunification, il y a beaucoup d'emplois qui ont disparu. La création des emplois avec les énergies renouvelables s'est fait plutôt dans le nord de l'Allemagne. C'était pas nécessairement les régions les plus industrialisées avant, mais la transition énergétique, c'est également un processus de redistribution pour les personnes qui habitent dans les régions où le charbon joue un rôle important dans la création de valeur ajoutée. On voit pas ça nécessairement d'un si bon œil que ça.
Sven Rosner, le directeur de l'Office franco-allemand pour la transition. Les énergies renouvelables, Michel Déhel, ne créent pas d'emplois dans les anciennes régions charbonnières d'Allemagne. Et là aussi, il y a un enjeu important.
En fait, il y a deux problèmes. C'est l'intervenant là parlait de Lausitz, c'est-à-dire c'est la basse Lusace, donc qui est une région de l'est de l'Allemagne qui se trouve principalement dans le Land de Brandebourg et aussi un peu en Saxe entre les deux Länder, et qui était au temps de la RDA vraiment le centre principal de production d'énergie, d'électricité en Allemagne de l'est, puisque on extrayait à l'époque 200 millions de tonnes de lignite dans cette région. Et évidemment, avec la réunification, on a supprimé des dizaines de milliers d'emplois. Le secteur du lignite de la RDA, c'était plus de 100 000 emplois. Et donc, aujourd'hui, vous avez grosso modo, à la fois en Basse-Lusace et dans la région de Leipzig, peut-être environ 10 000 emplois encore dans le lignite.
Mais est-ce que ces emplois n'ont pas été remplacés par les nouveaux investissements justement dans les énergies renouvelables, puisqu'ils ont été faits en partie, ces investissements, dans des régions d'Allemagne de l'Est, en particulier entre Dessau et Leipzig, pour ce qui est du photovoltaïque.
Et même, mais le secteur du photovoltaïque, comme on l'a dit, il a été un peu torpillé par la concurrence chinoise. Alors, il y a quand même, par exemple, en Basse-Lusace, il y a une grosse usine de production d'éoliennes. Donc, il y a aussi ce genre de choses. Mais il est clair que c'est loin d'avoir compensé les pertes d'emplois dans le secteur du lignite, notamment dans ces régions de l'Allemagne de l'Est, qui étaient effectivement un petit peu dans une monoactivité d'extraction et d'utilisation du lignite. Et donc, il y a quand même une crainte très forte dans des régions qui... Alors, la situation, évidemment, s'est beaucoup améliorée depuis... par rapport aux années 90, du point de vue socio-économique, du taux de chômage qui n'a plus rien à voir avec ce qu'il était au début des années 2000. Mais il y a quand même, c'est sûr, des craintes assez fortes que, en quelque sorte, on vienne détruire là une branche d'activité qui reste quand même relativement importante dans des régions... où grosso modo, il n'y a pas beaucoup d'autres activités malgré tout qui se sont développées.
Et l'inquiétude est peut-être d'autant plus forte, Mireille Chirolet souligne, que l'Allemagne s'apprête peut-être à vivre son deuxième trimestre de récession. La situation économique est particulièrement inquiétante.
Oui, l'Allemagne part d'une situation qui était florissante. Elle avait une croissance forte, hein, et donc elle a atteint un niveau de revenu par habitant moyen, donc de PIB par habitant, qui est très élevé par rapport aux pays européens. Donc le fait qu'elle soit en récession, c'est évidemment inquiétant parce que l'absence de croissance indique que les revenus risquent de ne pas croître. Ça indique d'éventuelles pertes d'emplois. Mais ce n'est pas forcément aussi inquiétant que pour d'autres pays. Ce qui est sûr, hein, c'est que cela peut compromettre la volonté de l'Allemagne de mettre en place des plans d'ampleur, hein, qui pourraient coûter à ses finances publiques, même si du point de vue français, on pourrait considérer que le budget allemand peut tout à fait supporter quelques dépenses publiques supplémentaires.
Mais là, c'est l'objet d'un débat justement sur cette question de l'équilibre budgétaire. On en parlait mardi. Mais alors, ça pose la question de cette date de 2038. Michel Dehaye, est-ce que vous y croyez à une sortie du charbon en 2038 en Allemagne ?
C'est pas une question d'y croire. En fait, comme on le disait tout à l'heure, après, c'est vraiment des choix politiques extrêmement lourds, moi, je trouve.
Mais avec les choix politiques qui sont faits actuellement, est-ce qu'on en prend la direction ?
Ça, c'est vraiment, pour moi, un peu le mystère, hein, je vous avoue. Parce que il est clair que si on compte uniquement sur le développement des renouvelables, pour pouvoir fermer ces centrales à charbon ou à lignite, et la commission du charbon même préconisait de fermer un tiers des capacités dès 2022, alors qu'on va fermer en parallèle aussi les dernières centrales nucléaires, hein. C'est 2022 la date butoir. Donc là, effectivement, soit l'Allemagne veut absolument développer construire en quelque sorte assez rapidement toute une série de centrales à gaz, hein. C'est techniquement possible, mais ça veut dire vraiment s'engager dans des importations, alors là, de vraiment assez considérables de gaz, hein, pour remplacer ce qui ne pourra pas être produit là par les centrales à charbon à lignite. Donc c'est vraiment lié à ce facteur-là qui est très vraiment c'est de la politique étrangère aussi en même temps, et ça engage l'Allemagne et un peu l'Europe finalement.
Tout dépend effectivement des financements qui vont être engagés dans cette transition énergétique dans les prochaines années. Mireille Chirolet a souligné, alors la transition énergétique ne semblait pas faire partie des priorités du gouvernement formé l'an dernier, ça a été beaucoup dit, mais aujourd'hui la place croissante des Verts dans le paysage politique, la pression de la société civile change la donne. On peut imaginer que des financements plus importants vont être alloués à cette transition ?
Peut-être. C'est très difficile à dire, en fait, parce que le poids politique des Verts est important, mais il n'est pas... les Verts ne sont pas majoritaires et ne le seront pas. Donc il n'est pas sûr du tout qu'ils puissent emporter les décisions. L'importance politique des Verts fait que l'opinion publique en général se verdit. Maintenant, elle était déjà à un niveau assez vert, mais comme je l'ai suggéré déjà tout à l'heure, c'est sur certains aspects et pas forcément sur tous. Par exemple, en ce qui concerne la consommation d'énergie, les progrès qui auraient dû être observés en Allemagne ne le sont pas. Actuellement, les objectifs sont très loin d'être atteints, parce qu'on a beaucoup parlé de la façon dont on produit de l'énergie, mais la sobriété énergétique est un élément fondamental.
Alors ça, il faut s'y arrêter un petit peu. En effet, la consommation d'énergie par habitant en Allemagne est beaucoup plus élevée que dans d'autres pays européens, Mireille Chirolet souligne.
Et surtout, elle ne diminue pas. Elle diminue très très peu. Il y avait normalement un objectif 2020 qui était un objectif européen de diminution de 20% de la consommation d'énergie, et donc d'augmentation de l'efficience énergétique. Et ce qui a été réalisé alors en 2017, c'était moins 5,5%. Autrement dit, on est très loin de l'objectif, et bien sûr cet objectif-là ne sera pas rempli.
Et alors comment l'expliquer ? Est-ce que c'est notamment lié au fait que le prix du carburant est assez bas ? Comment expliquer justement que cette consommation d'électricité par habitant recule si peu, Michel Dehaye ?
Alors oui, c'est la consommation d'énergie dont on parle, la consommation d'énergie primaire. Moi j'ai les chiffres très précis. Effectivement, quand on regarde la consommation en 1990 d'énergie primaire, on avait 357 millions de tonnes équivalent pétrole. En 2018, c'est 323. Donc ça a diminué de presque 10%, mais quand on regarde dans le détail, ça a diminué essentiellement dans les années 90. Donc en fait, avec en particulier la restructuration de l'Est de l'Allemagne. Et depuis, grosso modo d'ailleurs, la fin des années 90, on est toujours à peu près autour des mêmes valeurs. Il n'y a pas, comme le disait la collègue, il n'y a pas du tout de diminution finalement de la consommation d'énergie. Alors ce qu'il ne faut pas oublier, la grande différence peut-être avec la France dans la consommation d'énergie, alors là en l'occurrence aussi même d'électricité, c'est que le secteur industriel par exemple pèse beaucoup plus lourd qu'en France, et pour cause, puisque les Allemands ont conservé quand même un secteur industriel vraiment très puissant. Ce qui n'est pas le cas de la France, notamment depuis la crise, qui a encore accru, si vous voulez, la désindustrialisation du pays.
Mais c'est le bâtiment, Michel Dehaye, le premier consommateur d'énergie primaire. En l'occurrence, c'est le bâtiment, et c'est peut-être plutôt le problème du retard que prend la rénovation énergétique en Allemagne, qui explique cette forte consommation d'énergie, peut-être plus que l'industrie, Mireille Chireleux souligne.
Oui, c'est sans aucun doute le résidentiel et le transport. Parce qu'il ne faut pas oublier que le transport automobile est également responsable d'une très grande partie de la consommation d'énergie et des émissions de gaz à effet de serre. Et alors que l'Allemagne s'était engagée à une diminution de 14% en 2020 de la consommation d'énergie et des émissions de ces secteurs non couverts par le marché européen des quotas d'émissions négociables, donc transport résidentiel, elle en est seulement à moins 3%. Par rapport à 1990. Et donc ces secteurs-là, globalement, sont responsables.
Et comment on explique, Mireille Chireleux-Alsine, justement que les émissions de gaz à effet de serre dans les transports n'ont pas tellement diminué durant les 15 dernières années, parce que les véhicules sont tout de même moins polluants qu'avant?
Les véhicules sont moins polluants, mais on observe en Allemagne le même type de phénomène qu'en France, c'est-à-dire que l'utilisation de l'automobile ne diminue pas, loin de là, les prix des carburants et justement le fait que les véhicules consomment moins provoquent des espèces d'effets rebonds qui entretiennent donc la consommation d'énergie. Si on reparle d'influence de lobby, on a le lobby automobile qui est extrêmement puissant en Allemagne, avec également beaucoup un très très grand nombre d'emplois qui sont associés à ce secteur, et par conséquent une résistance très forte au remplacement de véhicules thermiques par d'autres types de véhicules. Alors là, il faut faire très attention, parce que si on remplaçait les véhicules thermiques par des véhicules électriques, étant donné ce que nous avons dit de la structure de la production d'électricité, ça ne serait pas forcément très bon pour les émissions de gaz à effet de serre. Mais le développement d'autres technologies, on pourrait s'attendre à ce que ce soit en Allemagne qu'apparaissent de nouvelles technologies et que soient développés par exemple les véhicules à hydrogène ou encore d'autres types de véhicules. Et actuellement, ce n'est pas le cas. Il y a même une résistance à l'éviction du marché des véhicules diesel, comme c'est en train de se produire en France.
Et là, la conséquence de cette consommation importante d'énergie primaire en Allemagne, c'est que les émissions de gaz à effet de serre dans le pays ont diminué de près de 28% depuis 1990, certes, mais en réalité, les trois quarts de la baisse ont eu lieu entre 1990 et 2005, et un quart seulement depuis, Mireille Chireleux-Alsine.
Oui, alors les trois quarts de la baisse qui ont eu lieu à partir de 1990, c'est assez simple, c'est que l'Allemagne était réunifiée et qu'en 1990, il y avait une partie très importante, une partie très importante des émissions qui venaient de l'Allemagne de l'Est. Donc, il a été relativement simple, avec la baisse d'activité, la restructuration industrielle et la fermeture de certaines centrales à l'Est, de diminuer ses émissions de gaz à effet de serre. À partir du moment où ces efforts faciles, ces efforts à bas coût avaient été accomplis, c'est devenu beaucoup plus difficile et on constate une stagnation.
Michel Dehaye.
Je suis entièrement d'accord avec la collègue sur les points qu'elle a évoqués. Pour résumer cette diminution des années 90, en RDA, en 1989, on produisait 300 millions de tonnes de lignite qu'on brûlait, donc soit dans des centrales, soit dans les foyers domestiques. à la fin des années 90, on était tombé à 70 millions de tonnes. Donc, vous voyez, vous brûlez 230 millions de tonnes de litres en moins, bah, ça vous fait une baisse effectivement considérable des émissions. Et depuis, donc là, maintenant, ça n'a plus baissé en quelque sorte, parce que précisément, on a plus à une RDA à restructurer.
Et vous diriez aujourd'hui, Michel Dehaye, que il n'y a pas assez de moyens qui ont été alloués en Allemagne à la rénovation énergétique dans le résidentiel?
Alors ça, c'est pas un sujet que je connais hein, très précisément. Je suis pas sûr que il y a quand même pas eu des moyens hein, qui étaient. Il y a des moyens hein, qui ont été mis. Après, si on compare avec la France, je suis pas sûr que les Allemands aient fait moins bien.
Mireille Chirelet souligne peut-être sur ce point.
Non, justement, l'Allemagne a fait mieux que la France. L'Allemagne
c'est ça,
a fait mieux, même si les résultats sont encore très insuffisants.
Ouais. Voilà.
Alors c'est intéressant de voir qu'aujourd'hui, on a un certain nombre de mobilisations politiques en faveur de cette transition énergétique en Allemagne, de mobilisations citoyennes également. Et demain, Angela Merkel doit dévoiler sa grande loi climatique avec un programme d'urgence de 40 milliards d'euros. On a tout de même le sentiment, Michel Dehaye, que la prise de conscience est là et que les choses devraient bouger dans les prochaines années.
Bah, je dis certainement, mais voilà. En gros, je ne connais pas du tout les décisions qui vont être annoncées, mais je crois qu'on a résumé tout à l'heure un petit peu les termes du débat. Si on dit il faut réduire effectivement fortement les émissions, si on veut s'engager dans la réduction forte de ces émissions, en dehors d'essayer d'agir, alors comment hein, sur le secteur des transports, ça c'est quand même compliqué, on l'a vu en France, mais c'est tout aussi compliqué en Allemagne. Donc il y a guère qu'effectivement, c'est le système de production d'électricité où on a déjà pris un certain nombre de décisions.
Est-ce qu'on veut
fermer vraiment les centrales à charbon ou pas?
D'autres décisions qui pourraient être prises, notamment pour relancer la construction d'éoliennes terrestres, puisqu'on a parlé de cette crise que le secteur traverse. Mireille Chirelet a souligné aujourd'hui, il y a une volonté de soutenir à nouveau ce secteur.
En fait, je ne sais pas exactement, moi non plus, quelles sont les mesures.
Je crois que le gouvernement veut mettre à disposition des terrains pour l'installation de parcs éoliens, accélérer les octrois de permis et puis évidemment travailler à renforcer l'acceptation de ces éoliennes par les citoyens. Parce qu'on a vu l'AFD, par exemple, surfer sur ce rejet, l'AFD, donc l'extrême droite allemande, surfer sur le rejet des éoliennes.
Oui, ce que je crains, c'est que si on ne met l'accent, enfin si l'Allemagne ne met l'accent que sur la construction de capacités supplémentaires d'éoliens, sans l'accompagner de construction de lignes de lignes de transport d'électricité, et ce sont des lignes qui doivent être enterrées maintenant, justement en raison de l'opposition des populations, ce qui est très coûteux, et si d'autres efforts ne sont pas faits aussi dans le domaine du résidentiel et de l'automobile, les objectifs seront toujours pas atteints. Je voudrais rappeler ces objectifs. En 2020, c'était moins 40% d'émissions de gaz à effet de serre. On en est actuellement à environ 31%, les tout derniers chiffres. En 2030, l'objectif, c'est moins 55%. Et pour arriver en 2050, à moins 95%. Autrement dit, si on essaie de rapporter les choses à la durée qui a été nécessaire, il a fallu 28 ans pour arriver à peu près 31% de réduction. Et il reste 12 ans, donc maintenant, pour les 24% restants.
Donc on se dit, en entendant Mireille Chirelet-Assouline, Michel Dehaye, qu'effectivement, c'est vraiment le gaz naturel qui devrait peut-être intervenir en transition si les renouvelables ne parviennent pas à compenser la baisse du charbon, même si l'Allemagne prévoit 80% de renouvelables dans la production d'électricité en 2050.
Ben, il me semble que de toute façon, là, pendant encore quelques temps, en quelque sorte dans une période vraiment de transition, il y aura toujours besoin de centrales thermiques, hein, donc elles fonctionnent au charbon ou au gaz. Je voulais vous dire deux mots aussi sur les éoliennes. Alors, effectivement, le problème, c'est que à cause de cette intermittence, c'est pas si efficace que ça pour réduire les émissions de dioxyde de carbone. Et puis il y a quand même des limites, hein, je pense. Même si on veut décider de nouveaux terrains, quand on connaît quand même beaucoup de régions d'Allemagne qui ont une densité d'éoliennes quand même assez impressionnante, il y a des phénomènes de saturation hein, qui se produisent. Et l'une des difficultés aujourd'hui, c'est d'arriver même d'ailleurs à aller installer des éoliennes dans des régions qui ont été relativement épargnées. Hein, moi, je connais des régions là, dans le sud de l'Allemagne, qui sont des massifs de moyenne montagne, comme l'Odenwald au sud de Francfort, où le gouvernement, enfin les autorités des Länder de Hesse et de Bade-Wurtemberg, disons, poussent un petit peu à ce qu'il y ait des projets éoliens dans ces régions, mais il y a une forte résistance. Hein, c'est un peu compliqué quand même.
Donc la marge de manœuvre n'est peut-être pas si importante que cela pour ce qui est de l'éolien. Alors on arrive au terme de cette émission. Pour conclure, Mireille Chirolle-Assouline, est-ce que selon vous, la transition énergétique allemande peut encore faire figure de modèle avec tout ce qu'on a dit, beaucoup d'avancées, notamment en ce qui concerne les renouvelables et en même temps cette part du charbon qui reste très importante dans la production d'électricité?
Elle a l'avantage, cette transition énergétique allemande, de s'être produite d'une façon très significative plus tôt que dans d'autres pays. Et donc, elle montre les chemins qui peuvent être suivis et ceux qu'il faudrait éviter. Elle montre en particulier que le développement des énergies renouvelables est une condition nécessaire, hein, mais qu'il faut l'accompagner d'une connexion au réseau et du développement de capacités de stockage. Elle montre que les efforts dans la production d'électricité ne suffisent pas et qu'il faut également mettre l'accent sur la rénovation des bâtiments et la diminution de la consommation d'énergie de façon générale, la sobriété énergétique. Et en ça, elle montre un chemin à suivre.
À la fois, l'Allemagne fait figure de modèle, Michel Dehaye, et en même temps, elle permet aux autres pays de savoir les erreurs à éviter.
Oui, je souhaite qu'elle puisse inspirer nos gouvernants. Hein, pour effectivement éviter peut-être un certain nombre d'erreurs manifestement du fait de la rapidité effectivement avec laquelle l'Allemagne a en fait développé un certain nombre de secteurs, hein. Et c'est vrai que on a réfléchi en création toujours de nouvelles capacités de production là énormes, hein, en électricité, et c'est vrai que comme l'a dit le collègue, on n'a pas du tout poussé suffisamment d'autres possibilités, notamment quand même qui est l'un des objectifs de la transition énergétique, c'est-à-dire de réduire les consommations. Hein, sinon, on n'arrivera jamais à avoir des capacités suffisantes pour faire face à une consommation aussi importante, en quelque sorte.
La sobriété énergétique est donc la clé, Mireille Chirolle-Assouline?
Bien sûr. Bien sûr, le meilleur kilowattheure, c'est celui qu'on ne produit pas finalement. C'est celui qu'on n'a pas besoin de produire parce qu'on ne le consomme pas.
Et c'est l'heure de retrouver le journal de l'écho. Bonjour Xavier Martinet.
Bonjour Tiffaine, bonjour à tous.
9% de la production électrique française paralysée et un tiers des agents en grève chez EDF. En cause, un projet gouvernemental de réorganisation et de scission de l'entreprise très controversé.
Et oui, en tout cas, cette scission de l'entreprise en deux entités serait inédite. Il s'agirait d'un EDF bleu qui comprendrait le nucléaire, l'hydraulique et le transport haute tension et un EDF vert qui regrouperait les énergies renouvelables, éoliennes et solaires, mais aussi Enedis, le distributeur du réseau basse tension. Nouveauté aussi, l'EDF bleu serait 100% étatisé et le vert à 35% introduit en bourse. L'idée est donc de renationaliser le nucléaire qui pèse lourdement sur les finances du groupe. Pour l'État qui en possède plus de 83% d'EDF, il s'agirait de donner à EDF les capacités financières de se développer, ce qu'expliquait Bruno Le Maire à l'Assemblée mardi. Mais les Républicains, qui l'avaient publiquement interpellé, critiquent eux, je cite, « un rêve financier plus qu'un véritable projet industriel ». Le Monde, lui, parle de la fin du modèle intégré de 1946. Alors, s'agit-il d'un mauvais pari? Non, dit Lionel Tacohen, ancien dirigeant d'EDF, c'est un choix politique.
Vous avez d'un côté le nucléaire et l'hydraulique, c'est-à-dire essentiellement le nucléaire. Hein. Alors on dit, cela, ça va être nationalisé parce que c'est difficile de rentabiliser, évidemment. Si vous vendez aux concurrents d'EDF à un prix inférieur au prix du marché, ça va être effectivement difficile à établir un certain équilibre. De l'autre côté, vous mettez les énergies renouvelables, qui seront subventionnées cette année à 5,3 milliards d'euros, en augmentation de 17% par rapport à il y a 2 ans. Donc en fait, si vous voulez, la réforme d'EDF revient simplement à inscrire dans la structure d'EDF une politique de l'énergie qui est d'une part une subvention renouvelable qui augmente tous les ans, et d'autre part la vente aux concurrents d'EDF de l'électricité inférieure au prix du marché. Donc le pari est fait d'augmenter la part des énergies renouvelables, ça coûte cher, on subventionne. le pari est fait de maintenir en vie les concurrents d'EDF qui n'arrivent pas à produire de l'électricité moins chère qu'EDF. Donc, on leur vend du courant nucléaire à un prix relativement bas pour qu'ils survivent. Donc, si vous voulez, il suffirait de diminuer les subventions renouvelables, d'une part, et de faire payer le nucléaire au prix réel. Et à ce moment-là, vous arrivez à une réforme inverse. C'est-à-dire que vous privatisez le nucléaire et vous nationalisez les énergies renouvelables.
Ce qui est sûr, Xavier, c'est que le parc nucléaire coûte de plus en plus cher à EDF.
Oui, c'est 70% de la production et un cinquième seulement des 15 milliards de bénéfices du groupe. Il y a aussi les problèmes des coûts augmentant des EPR. Et puis surtout, c'est la rénovation de ce parc qui coûtera cher avec au moins 100 milliards d'investissements d'ici 2035. La direction parle d'un mur d'investissement. Rénover les centrales, donc atteindre les objectifs énergétiques et rester dans les limites du droit européen à la concurrence. La route est étroite pour EDF.
On passe au bref avec du nouveau aussi à la SNCF qui change de tête. Est-ce que ça se passe dans le consensus général, Xavier ?
Bien apparemment, puisque Jean-Pierre Farandou, 62 ans, était jusque-là dirigeant de Keolis, filiale qu'on peut dire urbaine de la SNCF. Il passe, lui, à l'échelle supérieure et semble plutôt bien accueilli après une période tendue avec le président Guillaume Pépi. Lui, Jean-Pierre Farandou, c'est un ancien ingénieur cheminot. Son profil plaît à Sudrail qui lui souhaite, je cite, la bienvenue. La CGT cheminot jugera sur les actes. Un homme utile, en tout cas, pour l'ouverture à la concurrence effective d'ici 2020-2021, puisque Jean-Pierre Farandou est aussi présenté comme rompu aux appels d'offres. Bref, bon profil pour une réforme là aussi importante, parvenir à une nouvelle SNCF qui deviendra société anonyme à capitaux publics au 1er janvier prochain.
Les cigarettes électroniques bannies par l'Inde et elles sont aussi dans le viseur de nombreuses autorités mondiales.
Oui, l'Inde qui vient simplement d'interdire hier les cigarettes électroniques en pénalisant leur fabrication et usage jusqu'à 6 300 € d'amende. D'autres législation dans le monde, effectivement, cible aussi la cigarette électronique. Mardi, c'était l'État du Michigan qui devenait le deuxième aux États-Unis à interdire les cigarettes électroniques aromatisées, accusées de favoriser, elles, la dépendance à la nicotine. Trump lui-même avait annoncé des mesures. Les autorités sanitaires au Canada et en France s'y intéressent de près. Volonté de préserver la santé publique, comme le dit le gouvernement indien, ou pour protéger les producteurs de tabac, puisque l'Inde est le deuxième consommateur et troisième producteur mondial, les États-Unis, deuxième producteur.
Et pour finir, plus de deux tiers des personnes immigrées dans l'OCDE ont un emploi.
Oui, ce sont plus de 68% de ces immigrés et leur taux de chômage est à 8,7% en baisse. Principal enseignement de l'organisation qui publiait hier un rapport sur les migrations de travail dans ses 36 économies des pays développés. Trois autres petites remarques. Ce taux d'emploi est à peu près équivalent à 2,5 points de celui des personnes qu'on dit nées dans le pays. Deuxièmement, le flux de migrants temporaires est en augmentation à 4,9 millions par an. La Pologne est le principal pays d'accueil. Et troisièmement, la France est mal classée avec un taux d'emploi de 58,5%, juste au-dessus du Mexique, de la Turquie et de la Belgique.
Merci beaucoup Xavier Martinet. J'indique pour les auditeurs que votre chronique est à réécouter sur franceculture.fr et en podcast.
She was your light and she had your heart. The moment you saw her, she was the one. You were just a kid and never felt the heat. First love is deep when you don't expect it. For the first time in your life, you loved so much, you could die. For the first time in your life, you saw her, you could fly. For the first time in your life, you loved her, she loved you back. For the first time in your life, you felt alive.
Avec Oman de Jane. Merci beaucoup Mireille Chirolet-Assouline et Michel Dehaye de nous avoir accompagnés tout au long de cette émission. Un grand merci également aux techniciens de Radio France à Nancy qui ont permis ce duplex. On se retrouve demain pour notre table ronde d'actualité économique. Quel budget pour 2020 entre crise des gilets jaunes et maîtrise de la dépense publique? On en parle à 14h demain donc avec Martial Foucault, Virginie Pradel et Pierre Calfa. D'ici là, vous pouvez écouter ou réécouter toutes nos émissions sur notre site franceculture.fr et en podcast. Rendez-vous également sur Twitter. Hashtag Entendez-vous l'écho.